Le déversoir, chapitre 3. Au bout d'une heure, Simon s'éveille tout à fait. Il écoute les ronflements de son ami et ne peut s'empêcher de se rappeler ses confidences. Le viol collectif dans une sordide cave d'immeuble. Comment vont-ils se comporter entre eux, à l'avenir, après une pareille révélation? Et lui-même, un vrai tueur? Vont-ils seulement se tirer de cette galère? Il se penche vers la rive et regarde vers le ciel. Il est brillamment étoilé. « Qu'est-ce que tu branles ?» dit une voix maussade derrière lui. « Je suis en train de composer un haïku en m'inspirant des étoiles !» répond Simon à peine étonné qu'Antonin ne dorme pas. « Écoute un peu. Étincelle d'étoiles pour âme sans repos. Bof, non, c'est nul. Écoute ça plutôt. Étincelle d'étoiles, brasier de songe. Tu as peur? Pas toi? Si, mais j'ai toujours vécu avec la certitude qu'un jour je paierai pour ce que j'ai fait. Je suis à peine étonné de ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai l'impression que l'heure de régler mes comptes arrive. Avec qui? Je n'en sais rien. Mon père, peut-être. Le cri qu'on a entendu hier, la première fois, j'ai eu l'impression de le reconnaître. J'ai eu la même réaction, mais je ne voulais pas l'admettre. Et alors? Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pensé à Yvon. Et moi, mon père, c'était comme un cri de souffrance. Oui, un truc comme ça. Et pourtant, Guy, alors? Chuchote-t-il. Tu crois qu'ils l'ont... Ils se taisent quelques instants. Ils essaient de refouler l'image d'un meurtre dont l'un des acteurs serait leur pote d'escalade. « Non, c'est pas possible !» tranche Simon. « Il n'a pas pu faire ça !» Tous les deux, nous avons chacun cru reconnaître ce cri. Que faut-il en penser ? Lance Antonin comme s'ils jouaient tous les deux à « Qui est l'assassin ?» Je ne sais qu'une chose, c'est que la créature nous veut du mal. Toi, tu penses qu'il y a un rapport avec nos histoires personnelles? On ne s'est pas rencontrés par hasard tous les trois. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve ici ensemble. Il n'y a pas d'explication cartésienne à cela, mais une certaine logique. Tu sais, l'œil de mon père qui me fixait. Je ne l'oublierai jamais. À un point tel... qu'il me semble qu'il m'observe encore comme l'œil de Caïn. Mais ici, c'est encore plus vrai. Dès qu'on est arrivé dans la forêt, je me suis jamais sentie parfaitement à l'aise. C'est indéfinissable. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait concrètement se produire. « Oui, » soupire-t-il, « il y a un lien avec nos actes. C'est comme si ceux que nous avons tués revenaient pour nous faire savoir combien ils ont souffert. » Putain, Antonin, tu me fiches la trouille avec ton histoire de revenant vengeur, susurre Simon. On n'est pas devenus fous simultanément. Ce qu'on a vu était bien réel à nos yeux. Tu es sûr qu'il n'y a pas une autre explication, un phénomène un peu plus scientifique à tout ça? Scientifique? Tu veux rire, mon pote. Demain, tu verras ce que nous apprendra Tanguy au sujet de la fille. Je te parie qu'elle est morte. Tous les trois, nous avons une histoire à peu près semblable. Ça te paraît pas bizarre? Dans la pénombre, Simon se masse les genoux parce qu'ils lui font mal, mais aussi de manière compulsive. C'est une coïncidence curieuse. Je ne sais pas. Je suis écœuré par ce carnaval, en fait. Antonin ignore les réticences de Simon. Il me semble que la forêt, ici, réagit en fonction de ce qui la dérange. Nous l'avons profanée parce que nous possédons en nous quelque chose de mauvais. À nous trois, nous symbolisons une espèce de... Il réfléchit quelques secondes au terme approprié. Une espèce de quintessence du mal, on peut dire. C'est fort, essaie de tempérer Simon de plus en plus mal à l'aise. Je ne crois pas, Simon. Ce qu'on a fait n'est pas enterré et oublié, c'est en nous. Nous avons encore ce potentiel à faire du mal. En quelque sorte, nous sommes des bombes de violence. Ce n'est pas parce que tu t'es assagi que tu es devenu un autre. Rappelle-toi les sangliers. Tu as fait mine de leur tirer dessus. Et tu t'es immédiatement aperçu de l'incohérence du geste. Rappelle-toi, tu as dit tout de suite après « Il ne faut pas rompre l'harmonie. » Simon se tait. Il pense à son double tapis quelque part en lui. « Inconsciemment, » poursuit Antonin, « tu savais que cet endroit ne supportait pas ou ne supporterait pas la violence que nous trimballons et les actes que nous avons commis aussi. Nous souillons les lieux, Simon, et je vais t'expliquer pourquoi. Je ne reviens pas sur l'aspect enchanteur de la forêt et l'impression de virginité des lieux qu'on a eue en arrivant. Par contre, dans la forêt, tout est devenu mort à notre contact. Regarde bien ce que je vais faire. » Il remet sa lampe frontale et l'allume. Il braque le faisceau un peu au-dessus de la tête de Simon. Après un instant très court, il dirige brusquement son doigt sur le halo. « Tu as vu ?»«
Non.
Quoi ?» Simon est désorienté. « Attends une minute et regarde attentivement le faisceau de la lampe. » Un petit point blanc traverse le champ de lumière, puis un autre, et encore un autre, qui se maintient plus longtemps que les précédents. Il s'est rapproché de la source lumineuse, bientôt rejoint par d'autres points blancs, tout aussi avides de lumière.
« Bah, tu me montres quoi? Des papillons de nuit ?»«
Ouais, les papillons, les insectes. Et puis, écoute, ici, ça grouille de vie. Je te parie qu'en ce moment, dans la forêt, il y a autant de papillons qu'ici, près de la rivière. » Il éteint sa lampe.
« Je pige pas, » confesse Simon.
« Dès qu'on se pointe dans la forêt, la vie disparaît, comme si on diffusait des ondes de mort, sauf ici. C'est la preuve que dans la forêt et près de l'eau, on ne provoque pas les mêmes réactions. »
« Mais ça tient à quoi ?»«
Je crois que la forêt est une interface. »
« Pardon ?»
crie presque Simon qui craint le pire. « Je pense... » que la forêt est un monde qui ne répond pas complètement aux critères du monde réel. D'abord, écoute bien. Tu sais que c'est pas la première fois que j'organise une expé escalade. Je sais parfaitement tracer un parcours et estimer le temps qu'il faut pour le couvrir. À force, j'ai acquis une certaine expérience en la matière. Et étrangement, je me suis complètement planté sur le voyage en rivière. Les indications millimétriques de la carte sont erronées au vu du chemin qu'on a parcouru. En fait, on a mis deux fois plus de temps que prévu. Une carte fausse, j'y crois pas une seconde. Je pense plutôt à un monde sujet à des distorsions physiques.
Putain ! Bafouille Simon. La forêt réagit en fonction de ceux qui la foulent.
Si tu préfères, il se produit une réaction comme deux bornes complémentaires qui s'apparient.
Et ensuite ?
Ensuite, l'interface s'anime. L'interface nous a mis en contact avec un autre univers. On dirait qu'il se crée un tunnel par lequel la créature ou le truc qui hurle investit notre réalité.
Je suis pas sûr d'adhérer, articule Simon au bord du malaise.
Antonin ne peut percevoir la pâleur cadavérique de son ami dans le noir.
C'est nous qui l'attirons à notre corps défendant. Je ne sais pas ce que ça nous veut. Je crois seulement qu'il faut partir d'ici, et rapido.
Enfin quelque chose de sensé, s'exclame Simon, dont le sang afflue à nouveau à ses extrémités.
« Ta gueule, tu vas réveiller Tanguy. Qu'est-ce que tu croyais? Que je voulais aller aux champignons ?»
Ensuite, Antonin rappelle à Simon que leur situation est identique à celle du matin. Le chemin le plus sûr et le plus rapide pour rentrer chez eux reste l'ascension du massif. Adieu escalade et cascade de glace. Il faut trouver un pas accessible pour gagner la vallée.
De l'autre côté, ils trouveront des chemins d'exploitation forestière qui les mèneront à la route départementale. De là, on les prendra en stop jusqu'à la voiture. Dès l'aube, ils doivent récupérer leurs sacs et filer au pas de course en direction de la crête, laquelle, d'après les estimations d'Antonin, n'est pas si éloignée du campement. Avec leurs excellentes conditions physiques, ils sont tout à fait capables de réaliser cet exploit. Quand Simon émet le risque de se retrouver face à une nouvelle manifestation près du campement ou en chemin, Antonin réfute l'hypothèse. Pour lui, le phénomène se réalise dans une atmosphère créée par eux-mêmes. Il a l'intuition que l'évocation des actes scabreux concourt à provoquer l'interface, un peu comme appeler les esprits. Cette idée remplit de terreur Simon. Comment va-t-il refouler les images du lynchage d'Yvon en traversant les bois? Il en frissonne. Antonin se couche sur le matelas d'aiguilles de pin. Certaines s'enfoncent dans la chair de sa nuque, l'obligeant à remonter sa capuche. Il tient à rester éveillé jusqu'à l'aube. Mais au bout d'un quart d'heure, ses paupières se ferment et il somnole le temps d'un cycle. Les autres dorment encore quand il se réveille. Sa première pensée va pour Nina. Avant elle, jamais il n'aurait imaginé qu'on pouvait parler aux autres avec autant de douceur et arriver aux mêmes fins. Il s'aperçoit qu'il l'aime plus qu'il ne l'avait imaginé, peut-être parce que ses défenses sont à terre. Une vague de chagrin l'envahit soudainement. Les larmes lui montent aux yeux. Quelque chose s'est brisé cette nuit. La cohésion du groupe. Le cri de son père. La culpabilité. Au vu de ce qu'il vient de vivre, il est pris de sombres pressentiments sur la vie dans l'au-delà. Quelle espèce de monstruosité l'attend? Tanguy grogne, puis se lève brusquement. Il lance des regards alarmés tout autour de lui, puis la mémoire lui revient. Il se laisse choir à nouveau sur le matelas d'aiguilles, la mine abattue. Simon se réveille à son tour, les paupières lourdes de fatigue. Il cligne plusieurs fois des yeux comme un hibou surpris par un ray de lumière. Il se racle la gorge deux ou trois fois. La rivière a pris une teinte métallique. Son niveau a encore monté pendant la nuit. Sous les flots tumultueux, on devine la force du courant, comme un esprit menaçant prêt à bondir. Le regard des trois garçons se porte vers les bouillons saupoudrés d'écume qui indiquent le déversoir en aval. La sensation du piège qui se referme les frappe au même instant. Antonin informe Tanguy de sa décision de fuir par le massif. Il s'adresse à lui de façon si péremptoire que ce dernier ne s'oppose à aucun des arguments. Il se borne à hocher la tête comme un automate. Quand le groupe s'ébranle, il ferme la marche. Sa gorge est nouée. Un poids lui pèse sur l'estomac. Le besoin de franchise se fait irrépressible depuis que leur situation actuelle a un rapport avec leurs actes délictueux. Le remords enfle en lui jusqu'à devenir intolérable. Il sait qu'avant de quitter cette forêt sinistre, il doit se débarrasser du secret que les autres n'imaginent pas encore. Il cherche le moment propice pour le faire. Mais comme Antonin imprime un rythme de marche commando, il lui est difficile d'interpeller ses amis. Arrivé à la bifurcation, Antonin n'a même pas ralenti. Ils aperçoivent les gilets de sauvetage qui gisent encore là où se trouvait le canoë 48 heures plus tôt. Ils commencent à suer et à souffler en gravissant la pente de la forêt. Pour autant, le tempo ne faiblit pas. Chacun remarque pour soi qu'il ne souffre ni des courbatures ni des multiples coups qu'il a reçus dans la déroute de la veille. Simon n'a plus mal au genou. Dès son réveil, cette bienvenue bizarrerie l'a frappé, lui qui appréhendait cette marche forcée dans la forêt. Ils n'ont pris qu'un repas en 24 heures, peu ou mal dormi les deux nuits passées, et pourtant ils ne ressentent pas l'accumulation de fatigue redoutée. Ils avalent la côte comme au premier jour d'une expédition. À l'approche du campement, leur instinct leur commande de ralentir. Antonin reste en tête du groupe. Il fait signe aux deux autres de demeurer en retrait, prêts à filer en cas de nécessité. Il se déplace en se dissimulant derrière les arbres, comme une unité d'élite prête à passer l'action. Puis, Antonin leur intime l'ordre de se cacher et d'attendre. Il avance seul en contournant le camp par l'ouest. D'où ils sont, Simon et Tanguy ne voient pratiquement rien du camp. Néanmoins, il leur semble que la tente est affaissée. Ils observent anxieusement leurs camarades à l'affût de la moindre réaction de défense, mais au lieu de ça, ce dernier se fige en une statue de pierre en terrain découvert. Son visage exprime un mélange d'étonnement et d'épouvante. Comme rien ne lui saute à la gorge, le corps plié en deux, Simon sort en premier de sa cachette et trottine à sa rencontre. À cause de sa langue réduite à l'état de pierre ponce, il est incapable de pousser le moindre « pst », fût-il discret. Son cœur bat la chamade, ses jambes flageolent. Tanguy sent ses poils se hérisser sous sa polaire et devenir dur comme des aiguilles de pin. Il est subitement barbouillé, prêt à rendre un flot de bile à tout moment. Il se lance à la suite de Simon avec le même empressement du condamné à mort vers l'échafaud. L'idée insolite qu'Antonin peut avoir besoin d'eux lui effleure l'esprit. Or, il aurait aimé en rire. Antonin n'a jamais eu besoin de personne. Ce dernier tombe à genoux, les bras ballants comme anesthésié par une seringue invisible. Il est d'une pâleur à faire craquer le plus coriace des croque-morts. Lorsque les deux autres se portent à sa hauteur face à leur campement, ils sont foudroyés sur place. Simon ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Tanguy vomit un liquide vert et pousse un râle d'agonie. Il se jette face contre terre et sanglote. Cinq longues minutes de pures hallucinations passent ainsi. « Antonin !» susurre Simon. Mais le leader du groupe ne répond pas. « Antonin !» répète-t-il aussi doucement que possible. Le deuxième appel semble ramener l'autre à la vie. Il redresse imperceptiblement la tête, les yeux rougis par le choc qu'il vient de subir. « On est mort ?» interroge Simon avec une voix tremblante. Un sanglot expire dans sa poitrine. Antonin est pris d'une quinte nerveuse faite pour chasser une dangereuse léthargie. Il se redresse sur ses pieds et contemple ce qui reste encore du campement. Il jette un œil sur Tanguy, à présent recroquevillé comme une larve qui fait le mort. « On est foutus !» baragouine l'homme à terre. Antonin regarde Simon, dont les traits du visage sont décomposés. À cet instant précis, il se sent incapable de la moindre parole réconfortante. Du reste, que pourrait-il dire ? « Nous sommes passés de l'autre côté. C'est fini, Antonin !» prophétise Simon.
« Non !»
beugle Tanguy. Surpris, les deux autres le regardent se débattre contre une force invisible. « Non, non !» Puis d'un coup, il bondit sur ses pieds. Il a l'air du démon capable de changer de masque en une fraction de seconde. « Quoi ? » vocifère-t-il. « Je ne suis pas un violeur ! Merde ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Vous valez pas mieux que moi, assassin !» À peine a-t-il fini de crier qu'il se jette encore sur le sol en se lamentant. « La vie est si fragile !» Simon et Antonin demeurent silencieux et n'ont pas bougé un cil. « On peut pas tout gâcher !» Puis il se retourne sur le dos et laboure le sol de ses pieds. « Oh, putain, ses yeux sur moi! Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas le mien! Son foetus, c'était pas le mien !» Antonin s'inquiète, il s'avance vers lui. « Quoi ?» De nouveau, Tanguy est sur ses pieds, campé face à celui qui les a entraînés ici. « Arrête ! T'as peur d'entendre la suite ?» Tanguy arbore une grimace hargneuse.
« Ta gueule !
Mais tu vas l'entendre, la suite ! Tu me regardes comme si j'étais un pestiféré. Je suis pas dupe. Alors je vais te la servir, la suite. Comme ça, tu pourras me dégueuler dessus. Ne fais pas le brave. Viens pas me faire chier avec ta morale qui dégouline. Et toi, hein? Regarde-toi, t'es pareil que nous. Prépare-toi, parce que je t'ai pas tout dit. Et ce que j'ai fait, tu l'as fait, hein? C'est pour ça que ça te fait chier, parce que t'as fait pire. C'est toi le pire d'entre nous. Assassin!
Tanguy, ferme ta gueule. Ne m'oblige pas. Tu vas l'entendre, la suite. La fille est tombée enceinte après nos saloperies. Tanguy, ta gueule!
Hurle cette fois Antonin. La montagne renvoie l'écho. Tanguy recule d'un pas, mais il veut en découdre pour de bon.
Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage.
Antonin se jette sur son ami et lui envoie un formidable crochet en pleine mâchoire. L'autre part valdinguer sur le tapis du mus. Sa lèvre a éclaté et saigne.
Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu fermes ta gueule maintenant.
Antonin essaie de prononcer ses paroles avec la voix la plus calme possible, mais elle chevrotte quand son regard se pose, au-delà de Tanguy, sur les trois corps éventrés.
Elle s'est retrouvée sur le toit de l'immeuble.
Tanguy continue avec une voix blanche.
Non, je t'en prie, arrête!
Mais Antonin n'a plus la force de lutter. Il sent les choses aller de manière inéluctable. Rien ni personne ne peut les stopper.
C'était 4 mois après le viol. Arrête, Tanguy, ils vont venir.
Elle a caché sa grossesse à sa famille.
Ferme-la, ils vont venir, je te dis.
Mais à 4 mois, ça commence à se voir quand on est adolescente.
Tanguy, ils vont venir pour de bon.
Elle est montée sur le toit et elle s'est approchée du vide.
Ils vont venir nous prendre.
Elle a regardé en bas, vers la cité.
« Arrête, Tanguy !»
Elle a sauté, mec, avec le bébé. On l'a su après l'autopsie. Elle a rien cafeté. Elle nous a laissés libres, mec. Tu le crois, ça?
Pourquoi, elle?
Tout à coup, un craquement formidable déchire l'air, suivi d'un violent tremblement de terre. En direction du massif, une forme ou dimension fabuleuse se dresse vers le ciel et commence à se diriger lentement dans leur direction. Dès les premiers instants, il se figure un corps, progressant à la surface du sol, mais très vite, ils prennent conscience que la chose se déplace sous terre, faisant onduler la forêt comme un vulgaire tapis. Les grincements sont terribles. Bien souvent, ce qui jette l'effroi sont les images sans lien avec la logique. Voir les arbres secoués comme des plumeaux, faisant l'ascenseur avec des angles impossibles lors du passage de la chose, suffit à leur faire perdre la raison. Outre cette vision d'horreur, il y a ces hurlements répétés qui semblent fuser de sous terre. C'est encore Antonin qui réagit le premier.
« Les casques !»
braille-t-il. Et il montre l'exemple. Il enjambe le cadavre d'un homme, qui est son exacte réplique, ou peut-être est-il déjà ce cadavre? N'a-t-il cessé de penser quand il l'a vu étendu, les intestins en guirlande autour du ventre? Il attrape son sac à dos et essaie de détacher la bride du casque emmêlée aux lanières du casque. Plus par mimétisme que par déduction, les deux autres en font autant. Simon ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil sur le corps qui n'est autre que lui-même. Ses mains tremblent si fort que le nœud qui lie le casque au sac se transforme en un véritable casse-tête chinois. Tanguy doit arracher le sac des mains du cadavre qui est resté cramponné aux brides. Ce faisant, le corps se déplace et les intestins entortillés à la végétation jaillissent encore un peu plus de l'abdomen. Il vomit tout en traînant le casque et le sac à dos sur le sol. Antonin exhorte ses amis à se presser. Mais il ne parvient pas plus à ses fins. Les hurlements atroces se rapprochent, et il sent l'ombre de la masse se projeter sur leur espace. En désespoir de cause, il sort son laguiole et tranche la sangle d'un coup net. Voyant les autres dans la même situation, il en fait de même avec leur casque.
« Suivez-moi »
crie-t-il rageusement. Pour la 3e fois en 3 jours, il cavale comme des dératés. Antonin les conduit vers le torrent. Cette fois, la chose les poursuit. les déflagrations sont de plus en plus nombreuses et toujours de plus en plus rapprochées. La montagne semble s'ouvrir en deux dans d'ignobles souffrances. Parvenu aux débris éparpillés du canoë, Antonin s'empare des gilets et les distribue à ses amis. Mais ils n'ont pas le temps de les enfiler comme le leur ordonne leur chef. La chose est tout près d'eux. Ils foncent en direction de la rivière aussi vite qu'ils peuvent. Ils arrivent enfin à distancer l'espèce de monstre qui se faufile dans des galeries souterraines. À la confluence, ils entendent malgré tout les détonations et concluent que la chose ne les lâchera plus. Antonin en a eu la prémonition en voyant les trois cadavres au campement.
« Mettez les gilets !»«
Où tu nous emmènes ?» fait Simon en haletant. Il est plié en deux les mains sur les cuisses.
« Là-bas !»
Antonin montre le déversoir. Tanguy et Simon se pétrifient.
« Il n'y a pas d'autre choix !»
dit Antonin encore tout essoufflé.
« Pas question d'aller là-bas !»
proteste Simon avec une respiration sifflante. Mais déjà Tanguy s'enfonce dans l'eau et marche en direction des gorges, tout en fixant son casque de montagne sur la tête du mieux qu'il peut.
« Simon, écoute! Puisqu'on est mort, nom de Dieu, on ne risque rien !»
La chose approche. On distingue déjà le sommet hérissé, aussi invraisemblable que cela puisse être, de sapins frisant les 50 mètres de hauteur. Puis des gémissements sinistres de douleur achèvent de les terroriser.
« Je sens pas l'eau !»
remarque Tanguy alors qu'il en a jusqu'au menton.
« Elle est pas froide du tout !»
Antonin attrape Simon par le col.
« Tu comprends ce que ça veut dire ?
On ne ressent ni la faim, ni la douleur, ni la flotte.
On a basculé, mais pas complètement.
Et ce qui s'amène vers nous n'est pas gentil, Simon.
On est en transit, tu comprends, bordel de Dieu ?»
Simon se protège le visage. Il a peur de son copain.
Quand j'ai frappé Tanguy, sa lèvre a saigné. Il y a encore une chance de se tailler par là.
Il indique du doigt le sinistre goulot d'étranglement, d'où leur parvient un grondement aussi inquiétant que les sons émis par la chose souterraine.
Sauvons-nous !
Meugle Tanguy. Il lutte encore contre la force du courant par instinct de conservation. Antonin pousse Simon dans l'eau sans ménagement. Mais comme il résiste, il le frappe au visage avec le plat de la main, puis avec le poing.
« Ne me force pas, Simon !»
rugit Antonin, le visage déformé par la peur.
« On est mort, putain !»
La paupière de Simon enfle à vue d'œil. Antonin l'agrippe par le bras et s'engage dans le courant. Bien qu'il se laisse conduire, Simon semble tétanisé par la peur. Antonin lui passe le gilet et lui attache son casque. Il s'habille à son tour, en gardant un œil sur son copain. Ensuite, il nage vers les gorges, et très vite, la rivière les emporte vers le déversoir. Antonin se retourne vers la rive et voit la forêt atteinte d'une boursouflure d'une taille inimaginable, avec sur ses flancs d'immenses cratères. De ces derniers affleurent, ici ou là, de monumentales masses creuses de forme cylindrique, aux extrémités, aux arêtes, vives, ou bien terminées par des proéminences arrondies. Elles sont de couleur ivoire et semblent avoir été enfouies il y a longtemps. Près du sommet, où se balancent des arbres séculaires, on aperçoit deux espèces de cryptes, desquelles une source lumineuse produit un faible éclat rouge. Quand il les remarque, Antonin est saisi d'une indicible frayeur. La paire d'yeux de la chose souterraine l'observe intensément. Subitement, les images défilent comme dans un stroboscope. Tantôt il a la nette impression d'être là depuis des millénaires et que le temps suit des courbures insondables, tantôt la réalité le ramène à la terreur d'être happé par la chose. Mais l'insupportable survient quand il prend conscience de la dimension tangible du temps dont l'éternité est l'unité de mesure. La peur panique d'y être entraîné l'emporte sur son inertie, qui, en fin de compte, n'aura duré qu'une fraction de seconde. Pris de vertige, il laisse échapper son urine dans son pantalon. Il bat la surface de l'eau de façon désordonnée avec ses bras en poussant des cris d'affolement.
De l'eau s'engouffre dans sa bouche. Il est emporté de plus en plus rapidement par le courant, et bientôt, ballotté en tous sens, il perd la notion de l'équilibre. Il heurte des masses d'eau qui s'avèrent être des vagues et plonge dans les creux formés par celles-ci. Puis tout à coup, il comprend qu'il bascule dans les gorges. Avant de chuter tête première dans la première cataracte, une image fugitive de l'horizon s'inscrit sur sa rétine. Il croit voir la rotondité de la terre, comme s'il la contemplait à travers le hublot d'une fusée. Mais cette sensation s'estompe bien vite quand il reçoit le premier choc. Il est presque assommé, mais le casque protège l'os du crâne. D'autres choses se succèdent. Son corps se comporte comme une boule de flipper, frappant les parois, rebondissant sur les rochers, filant à vive allure dans des rampes lisses. Sa respiration se mue en une suite d'apnées entrecoupées par de brèves goulets d'air et d'écume. Il crache, il avale, il régurgite, il s'étouffe. Sa poitrine lui fait atrocement mal. Le manque d'oxygène lui provoque un insoutenable mal de tête. Il est au bord de l'apoplexie. Il a beau se protéger le haut de son corps comme un boxeur dans les cordes, les collisions lui font baisser sa garde, et immanquablement un rocher frappe ses côtes, lui coupant le souffle durant d'interminables secondes. À plusieurs reprises, il perd connaissance, mais une meurtrissure le ranime. Il se débat, nage vers l'écume bouillonnante au-dessus de laquelle se trouve l'or précieux, l'oxygène. Ses poumons brûlent littéralement. Le manque d'air le torture. Dès que sa gorge entre en contact avec l'atmosphère, il happe l'air, le siphonne. L'inspiration se termine généralement en un gargouillement douloureux. Certaines fois, il a conscience d'échapper à l'énergie du torrent et d'être sous l'effet de l'apesanteur. C'est une chute, avec au bout la peur d'être réduit en bouillie. Il n'a aucune notion de sa situation dans l'eau, où se situe la surface ou le fond. Il dévale le cours d'eau comme pris dans le tambour d'un lave-linge. Outre son obsession de respirer, il a la hantise d'être démantibulé par un rocher. Son casque fait merveille. Les coups sont rudes, et sans celui-ci, sa tête se serait fendue maintes fois. Néanmoins, on ne compte plus les os de pigeon qui poussent sous la coque, ni les échymoses sur ses épaules, ses fessiers. Une pommette s'est enfoncée, un doigt s'est luxé. Pour autant, il n'éprouve aucune douleur physique. Il a seulement peur. Soudain, il est comme projeté en l'air pendant quelques secondes, puis il frappe la surface d'une eau calme. Il remonte à l'air libre, tel le chiot qu'on a tenté de noyer. Il respire bruyamment de longues secondes. Un plouf le fait complètement revenir à lui. C'est Tanguy. Il jette des coups d'œil autour de lui. Ils sont dans un petit lac, en forme de croissant. Au-dessus d'eux, le moteur d'une voiture ronronne, mais les arbres la dissimulent. À 10 mètres au-dessus de la surface, une petite cascade jaillit littéralement d'une faille de la montagne. La montagne les a régurgités par cette encoche dans le rocher, pense Antonin. « J'ai froid, j'ai froid !» se réjouit Tanguy. « On est vivant !» Antonin inspecte la surface du lac tout autour de lui. Tanguy comprend qu'il cherche Simon. Son allégresse disparaît en un clin d'œil. Simon reste absent malgré leurs appels. Le visage d'Antonin est déformé à cause de sa pommette effritée et son corps n'est qu'une vaste plaie. Il commence à nager vers la rive. « Antonin !» crie Tanguy. Il se rétablit et pivote vers son ami. Avec le gilet de sauvetage, il n'a pas besoin de battre des pieds pour se maintenir en surface. « Simon n'y a pas cru, c'est ça ?» Il hoche la tête. « Tu vois, Tanguy, je ne vaux pas grand-chose, encore moins que je l'imaginais avant ce bordel. Je vous ai entraînés tous les deux dans la forêt et j'ai provoqué la mort de Simon. Quand tout ceci sera terminé, je ne veux plus te revoir. » Et il se remet à nager en direction de la rive. « Antonin !» appelle encore Tanguy. Il s'immobilise, mais hésite à se retourner. Un reste d'amitié l'oblige à lui faire face à nouveau. Tanguy affiche une telle grimace à cause du froid que son visage ressemble à une gargouille. De la morve lui coule du nez et se répand jusqu'au menton. Il grelotte. Il a brandi son bras au-dessus de l'eau qu'il cherche à maintenir en direction d'Antonin. Le froid raidit ses doigts, Sa main ressemble à une crosse. « J'ai les deux jambes cassées !» réussit-il à dire en claquant des dents. Antonin va à sa rencontre de mauvaise grâce. Il tend sa main droite, mais Tanguy a du mal à l'attraper avec ses doigts paralysés. Il est maladroit, on dirait un lépreux. Antonin doit l'agripper par l'autre bras. L'autre grimace de douleur. Avec leur gilet encombrant, ils ressemblent à deux sumos qui s'empoignent sur un ring. Leurs regards se croisent un instant. Puis soudain, Antonin fond en larmes. Des sanglots secouent ses épaules.